En littérature jeunesse, voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte. Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Les deux paysages de l'empereur, de Shun Liang Ye pour le texte et Wang Qi pour les illustrations. L'auteur est aussi le cofondateur des éditions Hongfei Culture, qui publie principalement des textes d'auteurs chinois classiques ou contemporains pour la jeunesse. Cet album grand format porte un surtitre, « L'art de peindre en Chine », qui annonce déjà l'intention qu'a eu l'auteur de passer par la fiction d'un conte pour faire découvrir deux peintres de la Chine du 8e siècle. Li Xixun et Wu Daozi, qui vivaient sous la dynastie des Tang, ont marqué la peinture paysagère de l'époque, chacun à sa façon. Un jeune lecteur de 9-10 ans peut le comprendre grâce à cette histoire où les deux artistes vont devoir confronter leurs talents. Mais d'abord, plantons le décor. Lan, dont le prénom signifie « brume de montagne », est la fille du roi du Sichuan, en chinois « le pays des nuages ». C'est là que vient à passer le jeune empereur de Chine. Dès leur première rencontre, leur cœur chavire, etc. Elle accepte de l'épouser, mais elle doit quitter son Sichuan natal pour la capitale de l'Empire. Après son mariage, Lan commence une nouvelle vie dans le palais, où l'empereur la couvre de l'attention la plus tendre qu'un époux puisse offrir. Pourtant, Lan se rappelle souvent le pays de son enfance. Elle se sent alors seule, loin des siens. L'empereur s'inquiète de voir sa bien-aimée s'attrister et tente de la consoler. Pour cela, il ordonne à la cour de se mettre à la mode du Sichuan. Tandis que le chef cuisinier crée de nouveaux menus composés de plats exquis du Sichuan, le maître tailleur fait venir de ce royaume des tissus soyeux dans lesquels il taillera les plus somptueuses robes pour Lan. Le maître de musique, quant à lui, répète assidûment des airs du pays de Lan pour faire danser et chanter les courtisanes. Malgré le spectacle réjouissant de ces divertissements, les couleurs disparaissent chaque jour, un peu plus, des joues de Lan, comme la brume en s'effaçant quitte les vallées. L'empereur, qui voit sa jeune épouse dépérir, cherche un remède à sa langueur. En passant devant l'Académie des Arts, il découvre une galerie aux deux grands murs blancs. Une idée lumineuse lui vient à l'esprit. Là, il commandera à deux peintres de représenter les paysages du Sichuan. Il espère ainsi que la princesse se sentira davantage chez elle, dans le palais. Aussitôt, maître Li et maître Wu, les deux peintres les plus talentueux et les plus appréciés de tout l'Empire, sont convoqués devant l'empereur. « Vous peindrez chacun une vue du Sichuan sur un mur. Dans 3 mois, ce sera l'anniversaire de princesse Lan. » Et pour elle, je veux les plus beaux paysages du monde. Maintenant, à vous d'agir. » Après avoir reçu l'ordre impérial, les deux peintres s'éclipsent plein de déférence. L'auteur consacre à chacun des artistes un portrait assez détaillé de leur personnalité, de leur façon de travailler leur composition. Maître Lee nous apparaît comme très minutieux, appliqué à rendre avec méthode le paysage qu'il représente dans des scènes parfaitement agencées. Rien n'est laissé au hasard dans sa composition. Ici, un pont ou une passerelle. Là-bas, une maisonnette. À la manière du couvreur, il pose les tuiles une à une sur le toit des pagodes. Et comme le jardinier, il fait pousser des saules au bord d'un étang. Il en va tout autrement de Maître Wu qui décide de partir au cœur de la province du Sichuan pour y trouver l'inspiration. Pendant ce temps, au palais, le maître Li se documente auprès des géographes et couvre son mur d'images chatoyantes. Le mur de Maître Wu reste blanc. Pour illustrer l'album, Wang Xi adopte un jeu de courbes et de traits délicats à la manière des artistes auxquels il rend hommage ici. Un beau panoramique d'un mètre de large vous attend, au cœur du livre, plié en quatre, tout à fait représentatif du soin et de la qualité de la ligne éditoriale des éditions Hongfei. De son côté, l'auteur Shun Liangye nous charme par son écriture poétique qui nous avait déjà séduit dans La Ballade de Mulan, par exemple, ou dans Le Calligraphe. Ici, il construit son histoire, d'ailleurs librement inspirée d'une anecdote ancienne, en 14 tableaux introduits chacun par un caractère chinois, en référence à certains sceaux traditionnels qu'un petit glossaire explicite à la dernière page. Après une longue pérégrination, Maître Wu arrive, éprouvé, au sommet du mont Emei. Saisi par l'émotion, il se tient immobile au bord d'un précipice vertigineux. Sous ses pieds, un tapis de nuages s'étend vers l'infini, comme la surface d'une mer. Les pics montagneux affleurent comme autant d'îles habitées par des immortels. Même dans ses rêves, Wu n'a jamais imaginé de paysage aussi prodigieux. Poursuivant sa pérégrination, Maître Wu quitte le sommet du mont Emei. Il emprunte un sentier ombragé de pins centenaires et se laisse guider par le bruissement de l'eau de la rivière. Jusqu'à un endroit où le bruit s'estompe. Un silence délicieux règne à la source de la rivière. Rien ne se fait entendre, si ce n'est parfois le chant mélodieux d'un rossignol. Parfaitement calme, la surface de l'eau est voilée par une brume légère. C'est ici que l'eau s'unit avec l'air. C'est de cet air que naissent les nuages. C'est de ces nuages que se languit Princesse Lan. Le peintre peut prendre enfin le chemin du retour, mais il lui reste si peu de temps pour terminer sa fresque que tout le monde à la cour désespère de l'avoir terminée. Alors, durant 3 jours et 3 nuits, Wu s'absorbe dans sa création, tout imprégné encore de la beauté des paysages qu'il vient de contempler. Quand arrive le jour de l'anniversaire de Princesse Lan, devant une assemblée frémissante et enthousiaste, les deux peintures sont dévoilées au public. Je vous laisse découvrir l'effet produit sur les spectateurs et comprendre le sens de la déclaration de l'empereur. Tracer la forme, c'est fort bien. Dessiner l'esprit, c'est divin. Lequel des deux peintres, du plus minutieux et réaliste, ou du plus spontané et sensible, mérite d'être récompensé? Ne cherchez pas, l'auteur ne donne pas de vraie réponse, mais vous pouvez décider de la vôtre.
Univers de Stéphanie Richard, illustré de David Allard. aux éditions, pourquoi pas. Un petit roman entre science-fiction et fantastique qui interroge sur les couleurs du monde. Peut-être parce que les enfants et leurs parents oublient de regarder la couleur des prés, des montagnes et couchers de soleil de ce monde qui nous entoure. Donc, ce jour-là, un jour sans rien de particulier, tout se mit à devenir vert. Jour après jour, chacun tentait de s'y habituer. Parce que, côté recherche, ça n'avançait pas beaucoup. Jour après jour, jusqu'à ce que chacun oublie ce qu'était le bleu du ciel ou le jaune citron. Ce texte très court s'accompagne d'illustrations douces et épurées. Il me fait beaucoup penser à ce livre d'Arnold Laubert qui s'appelait « Le magicien des couleurs ». Les éditions du Pourquoi pas, d'où est sorti ce livre, proposent dans cette collection « Faire société » un autre court roman en tête bêche. Là encore, sur la transformation du monde. Le titre de ce deuxième roman est « Remous ». Et on passe d'un vert, des verts, à un rose ou à des roses. Je vous laisse découvrir cet autre appel. Appel à regarder notre monde à travers notre vision personnelle. Ce sont des petits romans qui s'adressent à des 8-9 ans, plutôt pour la réflexion qu'il doit entraîner sur notre perception personnelle du monde. Ce jour-là, le soleil s'était levé sur le monde, suivi par un petit crachin de printemps. Nous étions le 24 avril et tout semblait normal, sauf que la pluie qui gratouillait les murs était verte. Un verre d'eau qui aurait pu passer inaperçu sur les trottoirs qui étaient vert sapin, les troncs d'arbres vert perroquet, les boîtes aux lettres vert amande et les milliers de paires de chaussures qui battaient le pavé, vert bronze, vert poireau, vert tilleul. Incrédules, les gens se regardaient, osant à peine demander à leurs voisins si par hasard, eux aussi voyaient la vie en vert. Les enfants pleuraient de grosses gouttes mentholées qui coulaient sur leurs joues émeraudes. Et les chiens couinaient comme si la fin du monde était proche. Ainsi, les jours passèrent, toujours aussi verts. On tentait de s'y habituer. Les chercheurs cherchaient, les hommes politiques politisaient. Certains promettaient même une arc-en-cielisation du monde. Promesse qu'ils étaient bien incapables de tenir. D'autres avaient lancé le slogan « Non au vertreil, oui au vermeil ». Bref, ça n'avançait pas beaucoup. Il fallut donc s'y faire. On se mit à devenir extrêmement sensible aux nuances. On créait de nouveaux tons que chacun inventait, d'après ses souvenirs, où l'on voyait en couleur. Il y avait le vert rizière de mai, le vert bouteille vide au coucher du soleil, le vert ortie sauvage piétinée sur rosée, et ainsi de suite. Malheureusement, arriva aussi le temps où l'on vit fleurir des inventions délirantes, créées par les enfants qui n'avaient pas connu les couleurs. On entendait parler de vert fraise, de vert chocolat, de vert laine, de vert de terre. Les académiciens dans leur habit vert, resté vert, s'offusquaient. Mais le temps s'écoulait et avec lui, le souvenir des couleurs s'effaçait. Et les jours passèrent, passèrent, toujours aussi verts.
La plus locale des stations auboises, Thème Radio.